France Inter, le 6-9 du week-end.
La main verte d'Alain Baraton. Vous revenez sur une tradition d'il y a quelques jours.
Oui.
La tradition de la bûche de Noël, eh bien, elle risque fort de disparaître dans les Alpes. Tiens donc.
Ah oui, il est question ici de la vraie bûche, celle que l'on place dans la cheminée pour le plaisir des yeux. À compter du 1er janvier 2022, il sera interdit dans le département de la Haute-Savoie d'utiliser tout chauffage à bois à foyer ouvert dans 41 communes de la vallée de l'Arve, à savoir la région de Chamonix. Comme le précise un communiqué publié par la préfecture, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en place du plan de protection de l'atmosphère.
Oui, et cette mesure semble vous satisfaire.
Oui, et pour deux raisons. La première est qu'il va enfin être possible de savourer pleinement les gaz d'échappement des 600 000 camions qui empruntent chaque année cette vallée sans être perturbés par la pollution due à tous ces inconscients qui se réjouissent encore, les pauvres, du crépitement des flammes. La seconde raison, voyez-vous, qui justifie mon ironie matinale est que je ne désespère pas que cette mesure serve d'exemple aux élus qui ont voté à l'Assemblée nationale, là, tout récemment, le 10 décembre, la fin du plastique à usage unique d'ici 2040. Alors, entre-temps, la planète tout entière continuera d'être souillée par le plastique et les camions l'ont transporté partout en France et en particulier dans la vallée de l'Avre.
Alors, on va revenir à cette bûche de Noël. A-t-elle une connotation religieuse d'ailleurs ?
Absolument pas. Autrefois, la bûche participait à la célébration du solstice d'hiver et la lumière et la chaleur bien sûr prodiguée par le feu annonçait le retour du soleil. Si cette fête est à l'origine païenne, elle sera toutefois, comme souvent d'ailleurs, reprise par les catholiques qui choisissent le jour de Noël pour perpétuer cette tradition. Au Moyen-Âge, il devient alors de bon ton d'offrir une bûche aux pauvres et aux hommes d'église.
Et depuis, est-ce qu'il y a un rituel à respecter avec la bûche ?
Très important, la nuit de Noël, et autrefois bien sûr, toutes les cheminées du village étaient éteintes et il fallait se rendre à l'église pour enflammer une torche qui, après avoir été bénie par un prêtre, allait de maison en maison ranimer les cheminées éteintes. On avait au préalable placé dans la cheminée la fameuse bûche qui devait se consumer pendant 12 jours jusqu'à l'Épiphanie. Cette nuit-là, les chrétiens laissaient la porte de leur maison grande ouverte pour accueillir ceux et celles qui avaient besoin de se réchauffer.
Et pour cette bûche de Noël, Alain, est-ce que le choix du bois a une importance ?
Oh, énorme ! La bûche était souvent coupée dans une souche de hêtre, de chêne ou d'un arbre fruitier. Elle était présentée telle qu'elle, avec ses défauts, et recouverte de mousse ou de lichen. Les chrétiens prêtaient alors aux cendres des propriétés magiques, des propriétés capables de tenir à distance les esprits maléfiques.
Et puis cette coutume a fini par disparaître.
Et oui, et c'est pour garder cette tradition que les pâtissiers intelligents eurent l'idée au 19e siècle d'inventer les gâteaux roulés, puis les bûches glacées.
Eh bien, les pâtisseries, on en parlera avec le pape de la pâtisserie à partir de 8h20. Philippe Conticini, notre invité entre 8h20 et 9h20.
Eh ben, je vais l'attendre.
Oui, ça, j'imagine.
Gourmand.
On fait confiance. Vos
réponses, vos conseils à présent, Alain Baraton, aux auditrices et auditeurs de France Inter. Lucinda vous demande, puis-je planter un théier et consommer ses feuilles ? Elle précise qu'elle habite dans le nord de la Loire.
Alors, logiquement, oui. J'ai raconté ici même à cette antenne l'histoire du camélia de Chine, car le théier est produit à partir d'un camélia de Chine, une plante qui n'a pas vraiment de grandes exigences pour se plaire. Il s'avère que le climat, l'humidité de la Chine ou des Indes convient mieux pour torréfier, je ne sais pas si on peut parler de torréfaction, pour sécher les feuilles qui se consomment. Donc oui, on peut planter un camélia de Chine, mais le résultat visuel est quand même moins important, moins joli, moins agréable que le camélia du Japon. Il est possible de le faire. Être capable à partir d'un théier planté chez soi, de faire son propre thé, ça je ne saurais le garantir.
Question de Romuald, que pensez-vous d'une solution de sel, du sel pour éloigner les limaces ?
Oui, le lance-flamme aussi doit avoir une certaine efficacité, mais soyons raisonnables, le sel est un désherbant, on ne met pas de sel dans un jardin, c'est au risque de faire mourir les végétaux. Regardez quand il y a chaque année des crues, quand l'Atlantique se met en colère et sort un petit peu
ça brûle la rive.
Bah, évidemment, quand l'eau de mer se retire, généralement c'est un désert qui suit. Pas de sel dans le jardin, c'est très mauvais.
Grégory, je voudrais vous parler des gendarmes. Alors, par ceux qui verbalisent, les insectes appelés gendarmes, ils sont rouges avec des taches noires. Est-ce qu'ils sont nuisibles aux arbres?
J'adore ces petites bestioles qui se déplacent généralement en groupe. On les
jouait avec quand j'étais petit aussi.
Oui, et on les appelle gendarmes parce qu'en fait, leur apparence, vous venez de les décrire, ressemblait à la tenue des gendarmes au XVIIIe siècle. Voilà pourquoi on les appelle gendarmes. Ce sont donc des punaises que l'on appelle, je crois, picocores, le véritable nom. Non, ils se nourrissent exclusivement de déchets végétaux. Quand vous avez, par exemple, un vieil arbre endommagé avec une écorce qui se détache, vous arrachez l'écorce, il y a fort à parier que de l'autre côté, il y a quantité de gendarmes. Ce n'est pas parce qu'il y a des gendarmes que l'écorce se détache, c'est parce que l'écorce se détache qu'il y a des gendarmes. Donc il n'y a aucun problème, aucun danger. Mais je dois avouer que ces petites bestioles qui se baladent et qui ressemblent aussi à des masques africains, regardez bien, ce sont quand même de belles bestioles. Alors, de grâce, arrêtons de vouloir nuire à tous ces petits insectes, ils ont leur place pour l'équilibre et l'utilité de la biodiversité.
Fiona vous demande s'il faut tailler une orchidée après sa floraison.
Alors oui, alors il y a des milliers, des dizaines de milliers d'orchidées. C'est très compliqué. Ouais. Alors faisons la plus simple, celle que l'on voit aujourd'hui le plus, que l'on appelle Phanaleopsis. C'est pas facile.
D'ailleurs, j'en surtout profite. Quand on a passé un bon dîner la veille.
Oh, avec le bon docteur Patrick Pelou, on a un peu abusé, je dois reconnaître, Enfin, donc Phanaleopsis.
Les orchidées.
Et c'est une plante qui malheureusement fait beaucoup de tort aujourd'hui aux fleuristes. Parce que ces orchidées fleurissent tellement joliment et tellement longtemps, eh bien que quand on offre une orchidée, on n'achète plus de fleurs après. Et malheureusement, le commerce des fleurs, j'ai l'impression, en souffre beaucoup. Donc oui, une fois que la plante a offert ce qu'elle avait de plus beau, à savoir cette de fleurs généralement blanches ou roses, vous coupez au-dessus du deuxième œil et c'est parfait.
Allez, un dernier conseil pour la route.
Allez, encore un cadeau à faire. L'arbre dans tous ses états, c'est un livre de Georges Fetterman qui est consacré bien sûr aux arbres, c'est le grand spécialiste. C'est publié chez Delachaux et Niestlé. Je donne le prix, j'aime le faire, 29,90€. Encore un bel ouvrage, normal, il est signé Georges Fetterman.
C'était La main verte d'Alain Baraton avec les bons conseils de Georges Fetterman, votre collègue qui aime les arbres.
Tout à fait.
Spécialiste des arbres. À samedi prochain, Alain Baraton.
Samedi.